La Pride en 2022 à Marseille, c'est à la fois la marche des fiertés le 2 juillet, mais aussi en amont 2 semaines d'événements dans toute la ville et un festival d'électro au Parc Longchamp mettant à l'honneur des artistes LGBT. QIA+. Stéphane Bernard et Lilian Rivière, 2 organisateurs, viennent nous parler de ces festivités qui s'annoncent en cette fin de printemps, début d'été. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quelle est votre mission au sein de l'organisation de la Pride Marseille 2022?
Donc moi, je m'appelle Stéphane Bernard. Je suis président de la Pride depuis le mois d'octobre 2021. Donc j'ai en charge un peu toute la coordination, mais évidemment on est une grosse équipe quand même, et puis je m'occupe aussi plutôt des partenariats et du sponsoring, voilà.
Et vous alors, Lilian?
Alors moi, je suis chargé de développement, je m'occupe des réseaux sociaux, de la communication, et j'essaye de trouver des nouveaux publics, qu'on ouvre un petit peu cette Pride, voilà.
Et alors, chaque année l'équipe d'organisation change, ou alors c'est récemment que ça a changé?
Il y a un socle de, on va dire, d'une dizaine de personnes qui restent là depuis environ 4 ans, je crois. Effectivement, il y a eu un changement de présidence cette année, mais on va dire que le gros des troupes reste fidèle. Et puis, c'est capitalisé déjà sur une expérience, sur des savoir-faire, et puis sur une connaissance aussi de ce qui va toucher notre public, et puis aussi des connaissances bien entendu militantes. On a quand même beaucoup de gens de terrain, il y a beaucoup de gens d'associations qui sont présents dans l'équipe.
Et vous parlez d'ouvrir à un plus grand public, vers quel public vous avez envie d'aller ?
C'est vrai que on remarque, nous, au fil des années, que la marche des fiertés attire énormément de jeunes. On va dire que sur les 20 000 personnes qu'on comptabilise, nous, on a environ 50% de très très jeunes qui viennent de plus en plus tôt avec leurs parents, avec leurs amis. C'est des jeunes de plus en plus militants aussi, puisqu'on a souvent tendance à croire que la Pride est festive. À la base, c'est une marche revendicative. C'est une manifestation. Et on a beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de se dire que la Pride n'appartient pas qu'au centre-ville. Cette année, elle a un parcours inédit. Elle va démarrer de la Porte d'Aix. Ça nous semble être un symbole important. On va s'arrêter donc à l'hôtel de ville, au Vieux-Port. Voilà, je pense qu'on va essayer de trouver d'autres publics aussi au fil des années qui viennent. On a un projet sur jusqu'à l'horizon 2025 avec l'équipe actuelle. Nous, on aimerait bien travailler avec d'autres associations, pas forcément que des associations LGBTQI+. On a tout un travail de réflexion là-dessus. On part du principe que la marche, c'est un symbole de visibilité, mais c'est aussi une passerelle pour construire d'autres choses à l'année avec tout type de public. Voilà, puisque nos revendications, elles sont quand même plurielles et elles touchent une grande partie de la société, en réalité.
Est-ce qu'on peut dire qu'en 2022, la Pride Marseille a pris de l'ampleur? Qu'est-ce qui vous a décidé à organiser 15 jours de revendications, fêtes, ateliers?
Oui, on peut dire qu'elle a pris de l'ampleur parce que, bon, alors déjà en 2021, elle était un peu réduite à cause de la pandémie. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il fallait plus de temps et plus d'événements. Enfin, c'était notre volonté, hein, que ce soit des événements culturels, revendicatifs ou festifs. Et donc, une semaine, c'était plus assez. Donc, on a voulu faire tous ces événements sur 15 jours. C'est pour ça qu'on l'a appelé Pride 2 Weeks. Donc, ça partait de là aussi au départ. Et puis, on voulait aussi un festival plus conséquent qui, cette année, est sur 2 jours. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a toujours la marche le 2. Mais le festival sur 2 jours, c'était aussi une volonté pour nous d'avoir plus d'artistes et puis voilà, d'avoir quelque chose de plus, avec plus d'ampleur, effectivement.
Alors, je vous propose qu'on revienne un peu sur l'histoire de la marche des fiertés, parce que vous parliez du fait que c'était aussi militant, une manifestation. Donc, censé donner de la visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, queer, trans, à revendiquer la liberté, l'égalité des orientations sexuelles et des identités de genre. En 1969, c'est un peu là que c'est né. Donc, un groupe de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres se sont rebellés contre les forces de police, venu faire une descente au Stonewall Inn, un bar gay de New York situé dans Christopher Street. Et c'est par la suite, dès 1970, que la décision a été prise de commémorer un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les émeutes de Stonewall, en organisant un défilé qui est aujourd'hui la Marche des Fiertés, qui s'est développée en Europe, puis ensuite dans le monde. Donc certains pays connaissent des défilés, alors que même que l'homosexualité est encore un délit et considéré comme une maladie maladie mentale. Dans ce cas-là, l'objectif, justement, c'est de faire entendre la voix de ces minorités oppressées et puis, par exemple, de réclamer la dépénalisation de l'homosexualité. Mais après, une fois ces revendications accordées, comme en France, par exemple, le mouvement continue pour continuer à rechercher de l'égalité entre les droits et à toujours lutter contre toutes les formes de discrimination qui sont liées au genre ou aux différentes sexualités. Alors en France, la première marche parisienne indépendante d'eau défilé, ça a eu lieu en 1977. Et alors à Marseille, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps ça fait que la Pride Marseille est organisée ?
Alors bah, cette année, c'est la 29e édition, donc l'an prochain, ça sera les 30 ans. Grosso modo, Marseille fait partie des villes de France où il y a eu effectivement des soulèvements de population, des rassemblements spontanés. De mémoire, sans trahir, peut-être sans dire de bêtises, je crois que un des premiers rassemblements a été fait sur les escaliers de la gare Saint-Charles. Il y a une association qui s'appelle Mémoire des sexualités qui fait un travail d'archivage énorme. Je vous invite à consulter leur site internet. De mémoire, je crois qu'il n'y a pas de photos de ce rassemblement. Après, il y a des rassemblements autour de la plaine. Et puis après, il y a eu des marches, on va dire, plus classiques comme on les connaît aujourd'hui, sous la forme qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Donc l'an prochain, on est assez impatient de fêter la 30e édition et de se replonger un petit peu dans les archives de Marseille, puisque Marseille, on a tendance peut-être à l'oublier, mais c'est partie des villes pionnières sur le militantisme LGBTI en France. Il y a eu des universités d'été homosexuelles qui ont été organisées pendant des années et des années ici. Et c'est vrai que ça fait partie des temps militants très forts des années 80-90.
Et justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça a du sens de classer les villes en fonction du bien-être des personnes LGBTQIA+ sur le territoire ? Est-ce que ça a du sens de parler de villes LGBTQI+ friendly ?
Oui, ça a du sens parce qu'en fait, quand on parle en termes de territoire, même si la Pride Marseille est associée à d'autres marches partenaires de jeunes marches comme Arles et Nîmes cette année, je pense également à Manos Queer qui s'étend sur une semaine à Manosque. C'est important puisque on envoie un signal quand même fort aux personnes qui habitent dans ces villes. Pendant des années, Marseille a accueilli la marche, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a des symboles forts qui sont passés il y a quelques années, notamment. Notre accueil au Vieux-Port, c'est vrai que l'ancienne municipalité a toujours refusé quelques symboles en fait très classiques, c'est-à-dire soit un éclairage aux couleurs arc-en-ciel pour le 17 mai, pour la journée internationale de lutte contre la haine anti-LGBT. Ça se fait dans plein d'autres villes, c'est pas très compliqué, ou même ne serait-ce qu'un petit drapeau. Voilà. Je pense que ça envoie un signal aux personnes pour se dire que la ville les accueille, bien entendu, mais il faut voir au-delà de ces symboles. Il faut voir aussi ce que fait la municipalité concrètement pour pouvoir accueillir les personnes LGBTI+. Je pense au travail que fait l'équipe en place sur un sujet très précis sur l'état civil. Voilà, ne serait-ce que les formulaires ont été modifiés. Alors, on parle de lenteur administrative dans bien des cas, mais c'est pas inhérent à la ville de Marseille. Hein. On parle d'autres administrations, les universités, etc. Et c'est vrai que quand on agit sur le quotidien des gens, ne serait-ce que sur un formulaire de déclaration d'état civil pour deux hommes, pour deux femmes, je pense que c'est important. C'est important. Donc, on parle de territoire sans cliver. Nous aussi, on essaye de se dire que Marseille, c'est une chose, et aussi tous les autres territoires à côté. Donc c'est pour ça qu'on est vigilant et qu'on soutient, pour l'instant en termes de communication, on espère soutenir financièrement les jeunes marches partenaires à Arles et Nîmes. Mais ça reste important, ouais, de se dire qu'une ville se revendique comme étant LGBTI+, mais au-delà des symboles, qu'il y ait des actes. Voilà.
Alors, avant de continuer cette discussion fort intéressante sur la Pride Marseille 2022, je vous propose une petite pause musicale. Et c'est justement une artiste qui va être programmée dans le cadre du festival Longchamp Pride Live Festival, le 1er et 2 juillet. Cette artiste, c'est Mila Dietrich. Et on écoute un petit début du titre « Drive and Cry ». En featuring avec Lovathorax, et c'est tiré de l'album You Should Save Me Soon.
Make it concrete. You think it's so cruel. You're asking for treatment.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral. Vous venez d'écouter un tout petit extrait de la musique Drive and Cry de Mila Dietrich, qui sera présente lors de la programmation musicale de la Pride Marseille 2022. On parle de Gay Pride ou de Marche des Fiertés. Alors la seconde, c'est cependant pas une simple traduction de le premier terme. Gay Pride, c'est plus utilisé dans les années 80 à travers le monde pour définir ces manifestations, mais son champ s'est élargi et définit désormais l'ensemble des événements précédant les défilés. Et la marche en elle-même est appelée Gay Pride Parade. Au Québec, on l'appelle le défilé de la fierté gay. Alors, comment s'est fait le choix de la thématique droit dans tes yeux? C'est une thématique qui va être un peu le mot d'ordre de la marche des fiertés le samedi 2 juillet.
Alors en fait oui, c'est notre mot d'ordre 2022 qu'on a décidé en comité, hein, on n'est pas juste deux à décider ça, on a fait plusieurs réunions de brainstorming, et droit dans les yeux, ça nous est venu assez naturellement parce que en fait ce qu'on veut c'est ne plus baisser les yeux face aux gens qui nous agressent, face à toutes les injonctions qu'on peut avoir, face aux politiques, face aux institutions. Donc pour nous c'était très important parce que du coup c'est évidemment un moyen d'être fier et de plus se rabaisser face à des potentiels agresseurs, voilà, même si c'est pas toujours évident, mais c'est parti de là en fait.
Et alors l'affiche représente six visages différents.
Cette année, on a un peu renouvelé notre communication et pour la première fois, c'était un test, mais on a fait un casting sauvage. On a trouvé six visages qui pour nous représentent, donc là pareil, hein, il y a eu un vote, etc., qui représentent quand même toute notre communauté dans sa diversité. Hein, donc il y a six visages qui justement vous regardent droit dans les yeux et puis on leur a fait raconter leur petite histoire, leur bio qui sont très, très émouvantes. Donc je vous incite à aller les voir sur Instagram ou sur Facebook. Donc chacun et chacune raconte un peu son histoire et pourquoi ils ont choisi de représenter la Pride et justement d'être fiers de nous représenter.
Alors la marche des fiertés cette année, ce sera au départ de la Porte d'Aix à Marseille. Vous parliez d'un parcours un peu inédit. Dans quel sens et qu'est-ce que ça signifie pour vous de partir de cet endroit-là à Marseille ?
Alors la Porte d'Aix, c'est un choix qui a été assez vite fait dans notre équipe dans notre équipe réduite, puisque bon, c'est vrai que sur tous les parcours il y a des contraintes techniques évidentes, hein. C'est vrai que Marseille est quand même parfois un petit peu escarpé, mais c'est vrai qu'on a pensé déjà, on a essayé de repenser un parcours qui ronronnait un petit peu puisqu'on partait depuis quelques années du Palais Longchamp jusqu'au Vieux-Port ou inversement. Donc bien sûr la Canebière reste un symbole fort, on est en plein centre-ville, on est sur le Vieux-Port, mais Porte d'Aix c'était aussi pour remettre la Pride au centre de vraiment du Marseille populaire que nous on aime, que nous on connaît, avec qui on travaille, c'était l'objectif. On a consulté plusieurs autres parcours qui partiraient d'un peu plus loin. Pour des questions techniques, pour l'instant, c'est pas encore envisageable, sachant que la préfecture a toujours son petit mot à dire pour des raisons de sécurité, parce qu'on bloque une grande partie de la circulation aussi, faut quand même le reconnaître. Donc l'idée, c'est non pas c'est de faire passer la marche dans des quartiers où on ne va pas forcément, où on nous attend pas forcément, mais sans non plus couper l'accès aussi à tous ces quartiers, quoi, parce que on n'est pas là en terrain conquis en se disant voilà, une fois dans l'année on vous bloque la circulation, on vous bloque les accès de transport. Je pense que la Porte d'Aix, à la base on voulait passer par la gare Saint-Charles pour faire un clin d'œil à ce premier rassemblement. Au vu des travaux, malheureusement c'était pas possible. Mais c'est vrai que le choix d'un parcours, il est pas anodin. On avait essayé aussi de faire passer la marche par la préfecture cette année, puisque la préfecture de police, mine de rien, c'est un symbole également très fort pour nous. On reste quand même sur des symboles de la Porte d'Aix et du Vieux-Port, sur l'hôtel de ville. On est là quand même pour revendiquer des droits. On va remettre 101 revendications auprès des instances dirigeantes de la ville, de la région et du département au cours de l'inauguration. Donc voilà, on est là pour aussi, ça reste une marche politique, on est là pour se faire entendre quand même.
Alors la gare Saint-Charles ou la préfecture pour la 30e année, peut-être l'année prochaine?
On croise les doigts si les travaux de la gare Saint-Charles sont terminés, ce qu'on espère tous, mais je crois que c'est 2023, c'est au-delà de 2023. On va réfléchir à des parcours peut-être un peu différents. L'idée, c'est de rester quand même visible dans la ville en passant par des points de passage de sécurisés, parce qu'il y a aussi la question aussi de la sécurité aujourd'hui, tout en ne... ne on va dire, ne privant pas les populations aussi des transports en commun un samedi après-midi.
Ouais. Et vous attendez beaucoup de monde à cet événement ?
Bon, on attend beaucoup, beaucoup de monde. Cette dernière édition, qui était la première édition, déconfinée, de la marche, on n'a pas su si elle se tiendrait vraiment. On a eu plus de 20 000 personnes, selon la police en elle-même. Donc on attend énormément de monde cette année. Je pense qu'il y a une vraie attente pour que les gens retournent dans l'espace public, se rapproprient l'espace public et surtout au cours de ce type d'événement. Donc ouais, je pense qu'on mise un peu sur un grand grand nombre. Voilà.
Alors on refait une petite virgule musicale en présentant toujours une artiste qui sera présente au Pride Live Festival au Parc Longchamp. Et c'est Jennifer Cardini, le titre Come Down to Earth, qui est très très long. Donc on va mettre encore une fois un extrait, c'est 7 minutes 49, on va pas tout mettre. Et l'EP, c'est tiré de l'EP Tuesday Paranoia du label Crosstown Rebels. Vous êtes toujours sur le magazine du Midi sur Fréquence Mistral. On laisse un petit peu Jennifer Cardini en fond sonore. On parlait de la Pride Marseille 2022. Et au-delà de la marche des fiertés qui est organisée le 2 juillet de 14h à 18h, il y a deux semaines d'événements organisés par des associations partenaires, des commerçants, en amont de cette marche à partir du 17 juin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce tissu associatif qui va être fédéré pendant l'événement et qui existe à Marseille ?
La Pride Two Weeks, en fait, c'est effectivement deux semaines d'événements. Il y a plus de 50 événements dans toute la ville. On a travaillé en fait avec les associations et des collectifs pour que la programmation soit la plus complète et la plus riche possible. On a vraiment, je pense, tout type d'événements pour tout type de public. On a également nos partenaires commerçants, nos commerces en fait LGBT+, qui ont joué le jeu, qui proposent quasiment une soirée tout le temps. Donc l'idée, c'était de non pas de faire un programme élitiste où en fait on aurait que finalement des artistes de niche ou de parler que un certain type de public. On a essayé de vraiment de faire au plus large on a des associations bien entendu historiques avec nous, mais on a également des collectifs, des jeunes collectifs qui sont créés cette année, notamment cette année et l'an passé, sur deux registres très différents. Il y a le collectif Cœur Cœur qui fait du soutien pour les usagères de drogue par exemple. On a autre registre, la Maison des Soins Transgressifs, qui est un jeune collectif de drag queen marseillais. Voilà. Donc je pense qu'on a, on essaye de faire le grand écart entre tout type d'événements. Moi, je pense que on peut le dire, on doit avoir une des programmations les plus riches cette année à Marseille. Enfin voilà, par rapport à nos éditions précédentes. Tout le monde y trouvera son compte. Moi, je vous invite vivement à lire le programme, parce qu'en plus, il y a des choses qui sont rajoutées ces derniers temps sur notre site internet. Voilà, on a aussi une expo très forte faite en partenariat avec la ville de Marseille, donc de Nan Golding, qui est une expo en plus gratuite. Donc voilà, la ville de Marseille nous laisse à disposition vraiment un beau lieu. On a l'espace 3013 qu'on investit également rue de la République, pour ceux qui le connaissent, qui est un espace un peu protéiforme, qu'on va investir pendant ces deux semaines. Donc on tiendra un petit bar éphémère là-bas, et il y aura également nos expositions, une partie de nos expositions. Donc on...
Alors c'est des projections, c'est des ateliers, il y a aussi des conférences, même des moments sportifs sur la plage, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. On a deux associations sportives, Must et les Frontrunners, qui proposent des activités diverses sur les plages du Prado. Je crois aussi également aux Catalans et aux Prophètes. Voilà. On a effectivement ces événements sportifs. On a une conférence internationale le vendredi 1er juillet. Vraiment au sein du parc Longchamp. On a également une conférence à la librairie Histoire de l'œil, pour ceux qui connaissent à côté du quartier Notre-Dame-du-Mont, sur les transidentités dans la fiction. Je pense qu'on propose vraiment, je pense que chacun y trouvera son compte.
Et alors, les collectifs que vous rassemblez là, est-ce que vous pourrez dire que ce réseau existe déjà avant l'organisation de la Pride Marseille? Est-ce qu'ils se connaissent déjà, ou est-ce que c'est cet événement qui crée le réseau?
C'est un peu des
deux.
C'est un peu les deux.
Parce qu'en fait, on travaille avec les collectifs et les assos toute l'année. Hein, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais on n'a pas travaillé juste la semaine dernière. Ça fait 10 mois qu'on est sur le projet. Et donc, quand je disais tout à l'heure, le mot d'ordre, il est voté en comité et tout ça, c'est que justement, c'est quelque chose de très participatif. Et donc, on accueille toutes les assos qui veulent participer et puis tous les collectifs. Donc, on les connaissait déjà. Mais effectivement, ça fédère quand même.
Et alors, vous, en tant qu'organisateur, est-ce qu'il y a un de ces événements auxquels vous avez vraiment envie de participer ?
Ah ben moi, je vais dire tous, je ne peux pas en choisir un, parce que c'est vraiment très riche. Comme disait Lilian, il y a des expos, il y a des drag shows, il y a des apéros, il y a des choses plus sportives. Donc, en fonction de l'emploi du temps, je vais essayer d'aller un peu partout. Ça va être compliqué, mais franchement, tout va être bien, je pense.
Moi, j'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour une proposition différente. C'est la première fois qu'on organise ça pour un spectacle de stand-up, donc LGBTQI+. Il y a Tahani, qui est une humoriste qui est bien connue dans la région, qui est lesbienne, qui va venir, qui nous fait l'honneur de venir. C'est au Garage Comedy Club, qui est une jeune structure. Il y a pas mal d'étoiles montantes du stand-up qui sont en train de faire leurs armes là-bas. Je pense que ça va être une très belle soirée et c'est une vraie proposition différente, je pense.
Alors, il faut aller voir sur le site pour avoir toutes les informations et tout le détail. On rappelle le site.
Pride-Marseille.com, toutes les infos dessus.
Et alors, la Pride 2022 à Marseille, c'est aussi festif et ça s'accompagne de musique. On en a fait écouter là depuis le début de l'échange quelques-unes. Ça va être en clôture de ces 2 semaines finalement. Vous appelez ça le Longchamp Pride Live Festival et ça va se tenir dans les jardins du Palais Longchamp. Il y a 2 scènes, un village associatif, une dizaine de DJ, une scène ouverte aussi menée par Robin Desdois et plein d'autres surprises. Donc c'est 1er et 2 juillet, avant la marche et après la marche. On peut très rapidement citer les artistes et après je fais écouter une d'elles choisie pour l'émission. Alors il y a Jennifer Cardini, Tetristana, Maud Jeffrey, Barbara Butch, Mila Dietrich, Rag, Lilou Dallas, Abstraction, Lucy Ward et sur la 2e scène, Saab, Douceur, DJ Pompompon, K Holder, D Jekyll, Ferwi. Et on écoute Tetristana, le titre My Rules, featuring avec GS Donny de l'album Extra Sensitive. Thank you. Vous êtes sur Fréquence Mistral. Depuis le studio marseillais, on vous parle de la Pride qui va avoir lieu à Marseille en 2022, du 17 juin au 2 juillet. On vient d'écouter un titre d'une artiste qui sera programmée pendant la scène au Longchamp Pride Live Festival, un festival payant. Dont vous pouvez déjà réserver les places.
Alors en fait, il y a uniquement la soirée du vendredi qui est payante, donc effectivement il faut réserver sa place. La soirée du samedi reste gratuite puisque c'est la soirée qui enchaîne juste après la marche. En revanche, il faut quand même réserver, même si c'est gratuit, parce qu'il y a quand même des jauges à respecter, donc voilà. Mais effectivement, il y a une billetterie qui est ouverte, donc c'est important de réserver ses places. Ce qui est important aussi de dire sur ce festival, c'est qu'en fait, on veut créer un fonds de soutien, donc avec les bénéfices, on veut aider des associations ou des projets qui n'ont pas forcément de moyens, donc ça va se concrétiser après, plutôt en fin d'année, sur le second semestre, quand on fera un bilan de tout ça. Mais l'idée, c'est d'aider des assos et des projets qui vont nous tenir à cœur, et qui ont besoin de soutien financier ou logistique. C'est pas forcément que de l'argent, mais c'est un peu les deux. Typiquement, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé hier à Avignon avec la langouste à bretelles qui s'est fait taguer son local, on pourrait pourquoi pas les aider à reconstruire, à repeindre. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est pas forcément que des projets sur le long terme, ça peut être aussi des aides un peu ponctuelles pour aider des associations qui en ont besoin.
Langouste à bretelles, on va entendre un reportage d'une des associations qui est dans ce local. C'est l'association Létiel et c'est un reportage qui est fait par une collègue de Fréquence Mistral, Marion. Mais on continue un petit peu sur la Pride Marseille 2022, qui se veut aussi être un projet international. Vous organisez les rencontres Pride Med, dont l'objectif est de rassembler les organisateurs, organisatrices de marches des fiertés autour de la Méditerranée, de la mer Méditerranée. Est-ce que vous pouvez parler de ce projet-là, Pride Med, de la manière dont ça se construit ?
En tant que ville, quand même, on est au cœur de la Méditerranée, et puis Marseille, ça a toujours été une ville d'accueil, donc c'est de là un peu qu'est venue cette idée, et du coup de créer un label, donc Pride Med, pour effectivement aider des prides autour de la Méditerranée qui ont moins de visibilité, moins de moyens, les inviter chez nous, aller chez eux, pour discuter avec eux et elles. Des organisations, des passerelles qu'on peut avoir, notamment culturelles, ou sur des programmations, par exemple pour la Pride 2 Weeks, il y a une conférence qui a lieu sur les migrations et les LGBTQI+. Donc c'est des choses assez importantes, et donc ça c'est un peu nouveau, mais c'est un label qu'on veut développer.
Avec tous les pays autour de la mer Méditerranée, en lien avec les associations organisatrices.
Tout à fait, oui.
Alors, peut-être pour finir, une dernière question. Vous parliez d'une revendication que vous avez envie de porter cette année, mais vous en avez peut-être plusieurs. Et justement, c'est ça la question. Mais quelle évolution dans les mentalités ou même juridiques vous espérez dans les années à venir, que ce soit concernant les sexualités ou même le genre ?
C'est une question qui est difficile. Hein. On a 101 revendications qui n'ont pas été écrites sur un coin de table. Elles sont le fruit vraiment d'une collecte auprès des associations qui sont, elles, sur le terrain. Nous, notre but, notre objectif à la Pride, c'est de valoriser ce travail, c'est de valoriser vraiment les bénévoles des associations et leurs revendications, les mettre vraiment visibles dans l'espace public. Moi, je dirais d'une manière globale c'est un peu ma petite marotte, c'est que j'aimerais bien en fait plus de formation. C'est-à-dire plus de formation, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les universités, que ça soit dans le domaine de la médecine, dans la police. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Malheureusement, les associations sont un petit peu démunies en termes de demandes. On est assaillis. Je sais qu'SOS Homophobie, Le Refuge et bien d'autres. L'autre cercle, dans le milieu professionnel notamment, sont submergés de demandes, puisqu'il y a une vraie appétence sur ces sujets. Parce qu'en fait, il y a des vraies problématiques qui se posent aujourd'hui dans le monde du travail, notamment comment on accueille un salarié qui est en pleine transition, en fait. Comment on lui laisse des choses très, très, très simples, comme sa carte de cantine. Enfin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec une personne qui est un salarié ou une salariée qui est en période de transition ? De même à l'école, qu'est-ce qu'on fait avec un élève qui souhaite un prénom d'usage en fait sur les listes, dans les universités aussi, comment on fait pour changer un diplôme aujourd'hui? Tout ça, ce sont des questions et des problématiques. Là, on parle vraiment de spécificités sur les personnes trans, sur les transidentités, mais il y en a bien d'autres. Au final, comment on accueille aussi une personne qui est victime d'agression au commissariat? Comment on fait aujourd'hui? Il y a des dispositifs qui existent, il y a des soi-disant référents. On s'aperçoit sur le terrain que c'est pas le cas. Nous, à Marseille, on a la chance d'avoir une représentante, Frédéric Jekyll, qui fait partie de FLAG, qui est major de police à Noailles, mais dans bien d'autres villes, il n'y en a pas. c'est sur le papier. Parfois, ils le découvrent eux-mêmes hein, en cours d'année qui sont référents, référentes. La question de la formation aussi dans la médecine, elle se pose aujourd'hui sur les sujets, sur les personnes intersexes, sur les transidentités. Aujourd'hui, est-ce qu'on laisse la libre autodétermination des corps ou pas ? Notamment, est-ce qu'on arrête les mutilations des personnes intersexes, en fait, des enfants ? Voilà, et je pense qu'en fait, toutes ces questions-là qui sont finalement plus globales sur qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser aujourd'hui toutes les personnes, que ce soit dans tous les corps de métier, aux questions LGBTQI+. Et en fait, on s'aperçoit que derrière toutes ces questions, quand on parle avec les élèves, quand on fait des rencontres avec les élèves notamment, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a quand même finalement la grande ombre du sexisme qui est là. En fait, hein, derrière chaque forme de LGBTQI-phobie, quasiment, il y a vraiment la question du sexisme qui s'oppose à notre société. Donc comment on fait demain pour qu'on construise une société un petit peu plus, non pas inclusive, parce que je trouve que c'est un terme un peu chapeau, et comme la bienveillance, voilà, mais aujourd'hui, comment on fait pour co-construire on va dire, des systèmes où les personnes LGBTQI+ seront pas mises de côté, où on va pas se dire bah tiens il y a une spécificité pour ces personnes là demain il faudrait qu'on pense à construire ce type de société. Voilà.
Et vous parlez de formations, d'associations qui sont très sollicitées. Est-ce qu'il y a aussi des financements qui vont avec? Est-ce que elles sont financées pour leurs actions? Il y a des financements qui sont mis en place pour ça?
Il y a des subventions de fonctionnement, bien entendu, mais globalement, Stéphane pourra en parler, puisqu'il est aussi bénévole au refuge. Moi, je suis aussi bénévole à SOS Homophobie, on est une double casquette. Quand on fait des interventions au milieu scolaire, on n'y va pas pour l'argent. Hein. On demande 50 euros pour le défraiement en fait, hein, de nos bénévoles, par pour des interventions de 2 heures. Vraiment, ça reste du travail bénévole, tout ça, en réalité. Et on n'est pas assez, on n'est pas suffisamment pour sur le terrain. Donc nous, notre ambition, je sais qu'au refuge c'est ça aussi, c'est de se dire est-ce qu'on peut peut-être former des enseignants, du personnel encadrant sur ces questions-là. Il y a des enseignants aujourd'hui, des enseignants qui sont démunis du personnel scolaire qui est démuni par rapport à ces questions-là. Comment on fait pour lutter contre le harcèlement homophobe ou transphobe d'une élève? Bon, ça c'est vraiment... Il y a plein d'autres questions sur lesquelles on peut se pencher. Mais aujourd'hui, l'argent reste le nerf de la guerre pour certaines associations. Je dirais que nous, on essaye plutôt d'inverser le rapport de force en se disant demain, est-ce que le ministère de l'Éducation peut proposer effectivement une formation supplémentaire à ces enseignants qui ne soit pas facultative mais obligatoire sur ces questions-là dans leur parcours d'enseignement, une formation continue. Et je pense que l'enseignement c'est effectivement un domaine, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, la police, la justice, la médecine, voilà, il y a plein de choses à faire.
Et si je peux juste rajouter quelque chose pour sur ce sujet-là, c'est que effectivement, quand on intervient, nous, enfin en tout cas en milieu scolaire, Lilian aussi en fait, on s'aperçoit justement que les gens ne sont pas formés en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important, parce que nous on le fait, on est bénévole. Enfin, les assos ont un boulot énorme, comme Lilian vient de dire. Mais enfin, je dis pas que c'est pas notre rôle, mais ça devrait être fait aussi à plus grande ampleur. C'est-à-dire que c'est pas normal que des professeurs ne sachent pas comment réagir face à des élèves LGBT. Face à de la violence ou des choses comme ça, ils sont assez démunis, comme Lilian a dit. Et du coup, effectivement, il y a un gros besoin. Alors moi, je ne fais pas de formation chez les policiers, mais j'imagine que c'est pareil. Enfin voilà, donc vraiment, dans tous les milieux, c'est hyper important.
Donc un gros besoin de formation qui est porté et des revendications qui sont entendues, je l'espère, donc jusqu'à
Alors,
Gap, Briançon...
Si je peux juste conclure sur les revendications, c'est que, en fait, non seulement on en a des nouvelles tout le temps, comme dit Lilian, il y en a plus de 100 qui sont sur notre site, mais si on milite aussi... C'est pour que les droits reculent pas, parce qu'en fait, moi je dis tout le temps que les droits sont jamais acquis pour toujours, en fait. Donc on est tout le temps obligé de rappeler qu'on existe, que même s'il y a eu des droits acquis, il faut pas que ça recule, parce que ça peut évidemment arriver. Donc ça c'est hyper important aussi.
Alors le mot d'ordre c'est « droit dans tes yeux » de la marche des fiertés.
Alors, droit
dans les yeux, dans les yeux de chacun et chacune. Ouais. Pour la marche des fiertés, ensuite il y a toute cette programmation des 2 semaines qui arrive bientôt, c'est déjà la semaine prochaine, le 17 juin, ça tombe le vendredi 17 juin. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Pride Marseille 2022. Je vous remercie tous les deux pour être venus dans le studio marseillais, nous parler de cet événement et de tout ce qui est porté aussi par l'événement.
Merci beaucoup.
Donc c'était Stéphane Bernard et Lilian Rivière qui sont tous deux membres de l'organisation. Et on se quitte avec un titre de Maud Jeffrey qui sera encore une fois présente au Parc Longchamp le 1er ou le 2 juillet, mais en tout cas pendant la Pride Live Festival. Et le titre c'est I Fall at Five en featuring avec Rebecca Warrior de son nouvel album Ad Astra. Et on enchaîne direct après sur un reportage sur les Thiel, association accueillie à la Langouste à Bretelles.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sein. Nous allons vers la même.